Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu pour vous qui l'avez amenée dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 1er. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau. En les faisant coucher par terre, il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1 700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétac et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. On va ensemble un petit peu plus loin, au verset 13, il est écrit « Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom, en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen. » Amen. C'est un récit, je pense, comme on aime bien les lire, où il n'y a que des victoires. C'est un récit qui apparaît là, dans l'histoire, dans la vie de David, comme un peu son apogée. David a vécu, vous savez, et je pense que bon nombre de personnes ici le savent, David a vécu beaucoup de difficultés, des drames. Il a vaincu Goliath, ça a été quelque chose d'extraordinaire, mais après il y a eu de l'opposition, il a dû fuir, il a été chassé, il a habité dans des grottes, il a vécu vraiment des épreuves inimaginables. Et là, on arrive à un moment de sa vie où on se dit, mais ça y est, pour David, c'est ok, tout est réglé. Il y a là la victoire. Un petit peu avant, on l'a pas lu, il a été couronné roi d'Israël. Il est allé s'emparer de Jérusalem. Et on se dit, mais pour lui, sa carrière, elle est bien installée maintenant. Pour lui, tout est bien. Pour lui, c'est merveilleux parce que dans le texte que nous venons de voir, il va de victoire en victoire. Là où il va, il remporte des victoires. Nous pouvons lire que l'Éternel protégeait David partout où il allait. Et si l'Éternel est avec lui, la victoire est assurée. Il va battre les Philistins, les Moabites, on l'a lu, les rois syriens, les fils d'Amon. Il va mettre de l'airain, de côté, de l'or. Pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, dans ce texte, vraiment, je vous assure, ce texte m'a fait beaucoup réfléchir parce que lorsqu'on considère cela, on a tous envie de vivre. On se dit, on oublie un petit peu les difficultés de David et on se dit, mais moi j'ai envie de vivre ces périodes-là dans ma vie où je vais à un endroit, je remporte des victoires et on a chacun des victoires à remporter. Mais la Bible vraiment note des précisions et on va voir ensemble cet après-midi vraiment, si je puis dire, un peu comme ça, l'envers du décor de toutes ces batailles, l'envers du décor de toutes ces victoires. Il y a un moment, un épisode, et c'est nommé dans la vallée du sel, qui a été primordial, qui a été comme frappant, parce que la Bible nous dit qu'en plus des victoires, il va accomplir encore une autre victoire dans la vallée du sel. Et c'est cette vallée, cet après-midi, qui va nous intéresser, la vallée du sel. Parce que la vallée du sel, le sel dans la parole de Dieu a beaucoup de signification. Mais lorsque le sel était répandu au sol, lorsqu'une vallée était, on disait d'une vallée qu'elle était remplie de sel, ça voulait dire que c'était une vallée stérile, une vallée où il n'y avait pas la vie, une vallée, autrement dit, où on ne pouvait rien en tirer. Et pourtant, c'est dans cette vallée que David va avoir la victoire. Pourtant, c'est au milieu de la stérilité, donc on pourrait traduire un petit peu par au milieu de la mort, que la victoire, la vie va se manifester. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous, en tant que chrétiens, et on va le voir vraiment dans un psaume, que malgré les difficultés, malgré le fait que quelquefois nous pouvons être dans une vallée de sel, une vallée de mort, une vallée stérile, Dieu nous appelle quand même à garder notre foi, à garder notre confiance, à ne pas prêter attention à ce qu'il peut y avoir autour de nous, mais avoir toujours cette espérance et cette foi que lui, il est avec nous, que l'Éternel est avec nous de la même manière qu'il a été avec David. Cette vallée, par la suite, et j'anticipe sur la fin, on pourrait l'appeler vallée de l'Alliance, vallée où la corruption n'a pas sa place, vallée où le levain non plus n'a pas sa place, et on va l'expliquer ensemble, parce que si le sel peut signifier, vous savez, il est écrit, et c'est cette expression biblique qui peut-être vous parlera plus, lorsque une ville était vouée par interdit, on jetait du sel, comme pour dire, il ne repoussera plus, il n'y aura plus rien dans cette vallée, dans cette ville. C'est là la stérilité, mais le chrétien est comparé au sel qui évite la corruption. Les offrandes dans l'Ancien Testament devaient avoir du sel, et Dieu va dire, mais c'est le sel de mon alliance. Et c'est tout ça que nous allons voir, et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire rapidement le psaume 60. Et c'est sur ce psaume que nous allons nous attarder un petit peu, tout en gardant en mémoire ce que nous venons de lire. Il est écrit « Au chef des chantres, sur le lys, lyrique, hymne de David pour enseigner, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et battit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. » C'est ce que nous venons de lire dans 2 Samuel. Il est écrit verset 3 « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrités, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Soukhot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre les victoires et les victoires en victoire de David et ce psaume, on se dit, il y a un gouffre. On se dit, mais ce n'est pas possible. Nous, on préfère vivre ce qu'il y a écrit dans 2 Samuel. On préfère voir la finalité. Et c'est vrai que la finalité vaut mieux. Que le début, que le commencement. Mais ce psaume nous replace vraiment un petit peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'envers du décor. Dans l'envers du décor. Parce que c'était un moment primordial, je pense, et j'en suis convaincu, dans la vie de David. Parce que David, cet homme qui avait connu des souffrances, qui avait connu des peines, des difficultés, était maintenant couronné. On pouvait dire pour lui, mais voilà, c'est fini, sa vie de chrétien est réglée, il est baptisé, engagé, il vient à l'église, il est sérieux, il a souffert dans le passé, mais maintenant il va de bénédiction en bénédiction, pour lui c'est comme ça. Alors que la parole de Dieu nous montre un petit peu l'inverse, nous montre des difficultés, nous montre tout un cheminement par lequel David a dû passer, tout un cheminement que le peuple a dû voir et comprendre, par lequel lui aussi devait passer pour arriver au final, parce que nous avons lu en quelques versets la finalité de la bataille, nous avons lu la victoire et on se dit, mais merci Seigneur, on veut tous connaître la victoire. Mais le peuple a dû passer par des moments durs. Le peuple a dû passer par des moments d'incompréhension. Le peuple a dû voir des choses et a dû vraiment se poser des questions. David lui-même a dû se dire, mais je ne comprends pas. Dieu qui était avec moi, Dieu qui est avec moi, Dieu qui est toujours avec moi. Et nous, en tant que chrétiens, on peut se poser sans cesse ces questions, mais je ne comprends pas. Je suis chrétien, je suis né de nouveau, je m'attache à la parole de Dieu, je m'attache à la prière, et pourtant il y a des difficultés. Pourtant, il y a des difficultés et on voit, et on va voir vraiment qu'au travers de ce psaume, les difficultés que nous pouvons rencontrer ont un seul but, c'est de nous amener toujours plus proche du Seigneur Jésus-Christ. C'est de nous amener toujours à considérer sa fidélité, malgré ce que nous pouvons voir. Les difficultés vont nous amener aussi à peut-être nous émonder, à faire le tri dans nos vies de ce qui n'est pas la gloire de Dieu, pour que nous puissions arriver à toujours marcher de sainteté en sainteté, pour que nous puissions nous débarrasser des choses qui sont restées attachées à nous, pour que nous puissions grandir dans la connaissance et dans la ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3, ce message s'articule vraiment avec ce psaume 60, donc on va le voir ensemble. Le verset 3 nous dit « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité ». Et vraiment, c'est quelque chose qui est frappant, flagrant, entre le début de ce psaume, ce que David a écrit, comme on l'a lu, pour nous enseigner, parce que je pense que lui-même a été enseigné, parce que lui-même, lorsqu'il est allé au combat, a été enseigné et façonné. Il a voulu que pour nous aussi, ça soit de même, que nous soyons enseignés par ce qui s'est passé pour eux, pour lui, au moment des batailles. Tu nous as repoussés, dispersés. On pourrait traduire « repoussés » par « refuser ». On pourrait traduire « dispersés » par « ouvrir un enclos ». Ouvrir un enclos comme des brebis qui sont là dans un enclos. On ouvre l'enclos et les brebis s'en vont, peut-être au vert pâturage. En tout cas, on l'espère. Peut-être certaines vont essayer d'aller ailleurs. En tout cas, c'est là l'image qui est donnée « dispersée ». Et combien de personnes on peut voir, des chrétiens qui sont là, qui prient, et lorsque Dieu leur refuse, et je dis refuser entre guillemets, parce que Dieu ne nous refuse pas, il fait tout pour notre bien, mais c'est l'image qui est employée pour qu'on puisse la comprendre. On a en tête une idée, on a en tête, pour reprendre le contexte, un plan de bataille, on se dit, mais oui, voilà, on va faire comme ceci, comme cela, pour être sûr d'avoir la victoire. On s'imagine des choses, on est basé quelquefois plus sur ce que l'on peut penser, imaginer, que sur ce que la parole de Dieu nous dit, et plus sur la volonté que Dieu veut pour nous, que nos propres impressions. Et Dieu est en train de dire, mais voilà, mais il est bon quelquefois que vous soyez un petit peu bousculés. C'est d'ailleurs ce que va nous dire le verset 4. Mais dans le Deutéronome, on comprend bien l'idée qui est développée et qui est imagée là. C'est lorsque Dieu va parler au peuple en disant, mais souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, c'est dans Deutéronome 8, je le lis pour vous, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Et on pourrait vraiment replacer ce que Dieu va dire au peuple dans ces versets. Peut-être qu'il est bon pour nous, quelquefois, que Dieu nous réponde pas de suite à nos prières. Peut-être qu'il est bon pour nous, pour que nous ne soyons pas des chrétiens gâtés, tels des enfants qui demandent à Dieu des bénédictions, et sans cesse des bénédictions, en oubliant les fondements de notre vie spirituelle. David avait vraiment, et j'en suis convaincu, le peuple aussi, parce que les victoires étaient là, mais quand bien même les victoires sont là, on a besoin d'être façonné, on a besoin d'être enseigné, on a besoin peut-être que l'enclos de notre vie soit ouvert pour que Dieu nous observe et voit où nous allons. Si lorsque l'enclos est ouvert, on se dit « Ah, mais peut-être que je vais aller essayer de voir un autre pâturage ». Vous savez, on entend souvent des chrétiens qui sont là, qui disent « Mais je vais voir ailleurs, je vais essayer autre chose pour voir si c'est aussi bien. On va voir si l'herbe est meilleure à côté. » Et c'est cette image qui est donnée comme pour dire au peuple, comme pour dire à l'armée, comme pour dire cet après-midi à chacun d'entre nous. Mais voilà, s'il y a des périodes dans notre vie où il y a des difficultés, où nous sommes tentés d'aller voir ailleurs, si nous sommes tentés de lâcher la main de Dieu, si nous sommes tentés peut-être de dire « Ah, mais je verrai plus tard », Dieu nous regarde. Dieu nous observe. Dieu est là et il attend que notre réponse, ça ne soit pas le fait de dire « Ah, ben, puisque c'est comme ça, Dieu, il va voir, il va comprendre. » Non, la réponse que Dieu attend, c'est la confiance, c'est la foi. La réponse que Dieu attend, et vous voulez voir, c'est l'engagement dans le temps. L'engagement, quand bien même on attend la victoire, et la victoire peut-être tarde un peu. L'engagement vient, doit demeurer quand bien même, et c'est ce qui est écrit au verset 4, tu as ébranlé la terre, l'engagement qui demeure toujours le même, même si nos fondements, nos fondations sont ébranlées, même s'il y a une nouvelle qui arrive dans notre vie, qui sont là, qui nous bouscule complètement. Si on est secoué tel un tremblement de terre, il est bon de toujours garder cette foi et cette confiance. Il est bon de se dire, mais le Dieu qui m'a secouru les autres fois, le Dieu qui a été présent, telle l'image de David qui s'est caché dans des cavernes, qui a dû fuir, qui a dû aller vers les ennemis, qui a dû feindre de faire le fou, le Dieu qui a toujours été présent est encore avec moi aujourd'hui, quand bien même les réponses à mes prières tardent, quand bien même je suis encore dans une tempête, quand bien même il y a des problèmes, je sais que Dieu, lui, est fidèle. Je sais que Dieu est fidèle et c'est cela que le peuple avait vraiment besoin de comprendre. On ne veut pas s'habituer aux victoires. On ne veut pas s'habituer, s'il n'y avait que des victoires, on serait perdu dans notre vie. On serait perdu. Il n'y aurait plus les bases, plus les fondements, parce qu'on serait habitué à être tout le temps dans l'excellence. L'excellence, ça sera au ciel. On peut vivre une vie d'excellence en étant dans la tempête. On peut vivre une vie d'excellence, quand bien même il semblerait que d'un point de vue extérieur, nous soyons dans la défaite. D'un point de vue extérieur, nos fondements soient secoués. On ne comprend pas, pour reprendre ce que le Seigneur va dire, que notre sagesse peut-être soit déchirée. C'est ce qui est écrit au verset 4. On a besoin quelquefois de se remettre en question pour savoir si oui ou non, on est attaché au Seigneur pour ce qu'il est ou pour ce qu'il donne. On est attaché au Seigneur parce que nous savons qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne des bénédictions, parce qu'il est capable de guérir, de délivrer, ou on est attaché au Seigneur parce qu'il nous a sortis de notre misère et parce que sans lui, nous étions voués à une condamnation éternelle. C'est cela les fondements de notre vie, c'est cela qui doit demeurer, rester en nous. Le verset 5 nous dit... Tu nous as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvé d'un vin d'étourdissement. Et là, peut-être qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais il y a ce psaume, et je vais le lire pour vous, qui peut-être peut imager vraiment ce que le peuple avait besoin de savoir. Est-ce que peut-être nous avons besoin de saisir, de comprendre cet après-midi. C'est dans le psaume 75, et je le lis pour vous. « J'ai dit à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas. » Et aux gens mauvais, ne vous croyez pas au-dessus des autres. N'élevez pas la tête si haut, arrêtez vos discours méprisants. Non, la grandeur ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest. Elle ne vient pas du désert, mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse un, il élève l'autre. Le Seigneur tient une coupe dans ses mains. Elle est pleine d'un vin fort et fermenté. Il en offre à tous les gens mauvais du pays. Tous doivent en boire et vider la coupe jusqu'à la dernière goutte. Et on a cette image du vin. Et il faut comprendre dans ce texte, je prie le Seigneur que vous ne méprenez pas mal ce message. Dieu n'est pas en train de dire qu'on est tous des méchants, mais Dieu est en train de pointer le péché au milieu du peuple. Dieu est en train de pointer que quelquefois, on veut aller au combat et on se dit « la foi d'avant, Dieu m'a donné une victoire. La foi d'avant, j'ai pu remporter une grande victoire, je ne m'y attendais pas. » Et peut-être qu'on se repose sur nos lauriers, peut-être qu'on ne prête pas attention à notre sainteté et on laisse comme le compromis. Méchant, on pourrait le traduire comme « commettre l'iniquité ». Mériter la mort, autrement dit, ce qui nous fait mériter la mort, c'est le péché. Et Dieu est en train de dire, mais voilà, ne soyez pas, ne vous élevez pas. N'oubliez jamais, N'oubliez jamais, c'est ce que le peuple avait vraiment besoin de comprendre. Et nous qui connaissons ces choses, il est bon que nous nous rappelions que c'est Christ qui nous offre la victoire parce que Christ a tout accompli à la croix. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on dit dans des réunions, c'est une expérience de vie. C'est ce qui changera complètement notre façon d'être, notre comportement, notre façon d'appréhender les choses. Je ne veux pas m'élever, je ne veux pas dire « mais la victoire, elle vient de moi ». La victoire, c'est moi qui l'ai apportée. La seule chose que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui juge, c'est que c'est Christ qui m'accorde la victoire, parce que Christ a pu dire « mais tout est accompli ». Pour que dans nos vies, nous puissions jouir de cette victoire, et nous voulons être à notre place, nous voulons considérer également, parce qu'au verset 11 de ce même psaume, il va dire « je vais détruire l'orgueil des gens mauvais, mais la fierté de ceux qui m'obéissent grandira ». Et j'ai imagé vraiment ce psaume par le fait d'être ou de marcher selon la chair ou de marcher selon l'esprit. Où on marche selon la chair, et c'est l'image des personnes, là il est question des méchants, de ceux qui commettent l'iniquité, mais de ceux qui sont là encore à combattre avec leur chair, à s'imaginer qu'ils peuvent remporter des victoires par leur propre force, à s'imaginer qu'ils peuvent être saints par leur propre force, à s'imaginer qu'ils peuvent être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils sont méritants. Et d'un autre côté, il y a ceux du peuple qui s'en vont, l'Esprit rempli en eux, l'Esprit qui guide leur vie, l'Esprit qui guide leur existence, leur quotidien, ce sont ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont ceux qui disent « mais c'est ceux qui m'obéissent grandira, mais la fierté de ceux qui m'obéissent grandira ». Il est bon de pouvoir obéir à notre Dieu. Il est bon cet après-midi de considérer que Dieu nous appelle à marcher d'une manière sainte selon l'Esprit. Dieu nous appelle à remporter des victoires selon sa volonté, mais il nous rappelle également que s'il ne nous accorde pas la victoire, ce n'est pas parce qu'il nous aime moins. Ce n'est pas parce que son Esprit est moins abondant dans notre vie, c'est simplement le fait, ça peut être cela, qu'il veut que nous soyons façonnés, que nous puissions comprendre certaines choses et que lui, en tout cas, demeure toujours le même, qu'il ne change pas, il n'y a ni variation ni changement. C'est cela la vérité de notre Dieu, c'est cela qui doit s'attacher à nous. Le verset 6 nous dit « mais tu as donné une bannière à ceux qui te craignent ». Et c'est cette bannière qui va faire toute la différence. C'est à partir du moment où la bannière va se lever qu'il va y avoir un changement. Un changement dans ce psaume, un changement dans le peuple d'Israël, et c'est à partir du moment où il y a eu cette bannière qu'il y a eu un changement dans notre vie. On peut faire le lien, et on ne peut pas le lire, mais je vous invite à le lire, c'est dans Exode 17, où Moïse, l'homme de Dieu, va alors s'exprimer « mais l'Éternel est ma bannière ». L'Éternel est ma bannière. Vous tous qui êtes nés de nouveau, vous tous qui tout à l'heure allez prendre ce saint repas, qui avez fait cette expérience, peut-être il est bon de considérer, mais où est votre bannière? Où est la bannière de Christ dans vos vies? Est-ce qu'elle est toujours élevée? Bannière, on pourrait le traduire par étendard, quelque chose de levé, quelque chose que l'on doit voir. Si on ne voit pas votre bannière, ce n'est plus une bannière. Si votre bannière est cachée, ce n'est plus une bannière. Si Christ est caché dans votre vie, mais caché dans le sens mauvais du terme, si Christ est enfoui, c'est plus Christ qui règne. Si Christ n'est pas élevé, s'il n'est pas le premier, ce n'est plus Christ qui conduit votre vie. Et c'est le peuple qui avait peut-être besoin de comprendre. Et nous avons besoin de comprendre cet après-midi que pour que les choses changent, pour que la victoire soit là, pour que peut-être nous puissions jouir de ces bénédictions que Dieu nous promet, que Dieu nous propose, parce que Dieu nous propose des bénédictions. Dieu veut bénir son peuple comme il a toujours béni. Dieu veut répondre aux prières, sinon il ne nous aurait pas laissé la prière. Si Dieu ne veut pas répondre, si Dieu nous aurait dit « mais ça ne sert à rien de prier », vous comprendrez bien que notre vie s'effondrait, mais il a voulu nous laisser la prière pour que nous puissions voir qu'il est vivant, voir qu'il est fidèle, voir qu'il est tout-puissant. Et dans cette prière, nous devons toujours lever cette bannière parce que c'est la bannière de Christ. La version David Martin va dire « mais depuis, tu as donné une bannière à ceux qui te craignent afin de l'élever en haut pour l'amour de ta vérité, pour l'amour de la vérité. Pour l'amour de la vérité, nous ne voulons pas nous taire. Pour l'amour de la vérité, nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Mais pour l'amour de la vérité, nous voulons ressembler davantage à Christ, à Jésus-Christ. Nous voulons accepter les souffrances, nous voulons accepter ce qui vient de lui, parce que nous savons que tout ce qu'il nous propose, c'est bon et c'est parfait. Le verset 7 nous dit « Afin que ceux que tu aimes soient délivrés, sauve-moi par ta droite et exauce-moi. » Le mot « afin » ici est important parce que s'il y a cette bannière, cela peut nous conduire à être exaucés. Et exaucés, on pourrait traduire par répondre. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous dire oui à tout. Vous comprenez bien cet après-midi. C'est pas ce que je suis en train de dire. S'il y a la bannière de Christ, alors quelques-uns vont dire « mais c'est bon, Dieu va me dire oui à tout ». Non, Dieu va nous dire « mais je vais te répondre ». Je vais te répondre parce qu'il y aura ce saut dans ta vie, parce qu'il y aura cette bannière élevée qui va te démarquer d'avec les autres, qui va faire toute la différence avec le monde, qui va faire toute la différence si tu es dans une situation où, qui t'attriste. Tu peux avoir la paix, c'est cela qui fait toute la différence. Si tu traverses un deuil, tu peux avoir la paix quand bien même tu es dans le deuil. Tu as le droit d'être triste, mais la paix de Christ est là pour t'envahir. Le Saint-Esprit est là pour te consoler et c'est cela qui fait la différence. Afin que ce que tu aimes soit délivré. La délivrance est toujours disponible. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Dieu est là. Et quand bien même, peut-être cet après-midi, certains pourraient dire « mais moi j'ai été dispersé, je me suis dispersé moi-même parce que je n'ai pas eu la réponse que je voulais, alors je suis parti. Moi j'ai été déchiré parce qu'il y a eu un événement qui m'a troublé. » Dieu est en train de vous dire, d'encourager peut-être quelques-uns à dire « mais revenez vers moi, revenez vers cette bannière, remontez la bannière, élevez cette bannière et je vais vous répondre. Élevez cette bannière et vous allez comme vous réengager de nouveau avec Christ. Pour ceux qui avaient cette bannière, ne doutez jamais de ce que Dieu peut faire dans votre vie parce qu'il est fidèle et qu'il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il est toujours disponible, disposé à nous aider, disposé à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde parce que c'est là sa prière. Parce que c'est là sa prière. L'alliance de Dieu. Vous savez que Dieu avait fait une alliance avec David. Dieu a fait une alliance avec son peuple. Dieu a fait une alliance avec vous. Et quand bien même vous êtes dans la vallée du sel, quand bien même vous dites, mais là, il y a une vallée, c'est la stérilité. Je ne ressens plus la présence de Dieu. Je ne ressens plus les choses comme avant. Je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Je suis là, je lis la Bible, mais j'ai l'impression de ne pas comprendre. Vous comprenez bien que ce message est simplement là pour vous dire que même au cœur de la vallée du sel, même lorsqu'il y a des choses qui sont au contraire, même si on sait que la finalité, c'est la victoire, la finalité de notre vie, si nous demeurons fidèles, c'est d'être pris, emporté avec Christ. En tout cas, j'espère que c'est cette assurance que vous avez au fond de votre cœur, que c'est ce qui s'attache à vous, que cette finalité soit là, vous donne le courage, jour après jour, de vivre ici-bas, quand bien même il y a des difficultés. Mais dans la vallée du sel, Dieu est en train de vous dire, mais je suis capable de renouveler mon alliance dans la vallée du sel. Quand bien même il y a eu une victoire avant, quand bien même vous avez été, excusez-moi de le répéter, mais peut-être que ça concerne une personne précisément. Tu as été dispersé, Dieu est capable de te ramener, Dieu est capable de te combler si tu décides tout à nouveau de relever la bannière de Christ. Le verset 13 nous dit, et je ne vais pas tarder à terminer, « Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. » Peut-être que l'armée, peut-être que David, avant de commencer le combat, s'était dit « mais on est habitué à la victoire c'est bien, la victoire vient de nous, la victoire vient de nous ». Et là on voit que le cheminement, les étapes, les chemins par lesquels Dieu a fait passer David et le peuple, a amené comme tout à nouveau, parce que David l'avait expérimenté, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas ces choses. Le peuple, en tout cas, l'avait vu dans la vie de David, mais peut-être que tout à nouveau, il avait besoin de réapprendre ces choses, que finalement, l'homme ne peut rien faire, que l'homme est vite dépassé par les situations et que nous devons chercher auprès de Dieu le secours, que nous devons aller chercher vers celui qui est le secours. Détresse, c'est, on pourrait traduire par espace serré, comme un moment dans notre vie où on étouffe. Et Christ, c'est notre oxygène. Christ, c'est notre oxygène. Ce psaume nous parle de l'œuvre de Christ. La Bible nous parle de l'œuvre de Christ. La Bible est là pour nous montrer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. C'est dans Luc 4, on connaît bien ce passage. Jésus est venu comme pour dire, mais vous qui êtes dans des espaces serrés, je suis venu pour vous libérer, pour que vous puissiez avoir de l'oxygène. Et ce psaume se termine par ce verset qui est très connu. Je crois qu'il y a un chant d'ailleurs qui reprend cela. Il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Et là, ils sont dans la foi. Là, nous sommes dans la foi, nous voulons nous rappeler ces choses. Le début du psaume, je ne sais pas ce que vous en pensez vraiment, entre le verset 3 où le peuple dit « Mais tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. » Et entre le verset 14 qui proclame qu'avec Dieu nous ferons des exploits, qu'avec Dieu nos ennemis vont être écrasés, il y a comme un fossé. Il y a comme un gouffre qui a été comblé, et ce gouffre est comblé uniquement par Christ. J'aimerais qu'on puisse vraiment ensemble comprendre que Jésus-Christ est le centre et sera toujours le centre de notre vie. Nous ne pouvons pas compter être victorieux dans notre vie sans Christ. Nous ne pouvons pas compter prendre la Sainte Cène si notre vie n'est pas en règle avec Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas complètement comblés par Jésus-Christ, il y a autre chose qui nous comble, c'est qu'il y a encore un gouffre qui doit être comblé par la personne, par la présence de Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que c'est possible? Que ce n'est pas simplement, si je puis dire, le verset d'un psaume. Ce n'est pas simplement un chant que l'on peut chanter, mais c'est une réalité. On peut faire des exploits. Dieu peut nous amener à faire des choses qui nous dépassent complètement. Dieu peut nous amener à pouvoir remporter une victoire éclatante dans la vallée du sel, dans une vallée où la corruption n'existe pas, parce que si le sel répandu, c'est la stérilité, nous sommes le sel de la terre, nous empêchons la corruption. Et le chrétien, nous sommes appelés à être victorieux et à éviter que la terre soit corrompue. Vous savez, le jour où l'Église va être enlevée, ça va être dramatique. Parce que là, la corruption va pouvoir se répandre, mais à une vitesse, je pense qu'on ne peut pas imaginer cela. S'il n'y a plus de sel, vous savez, le sel à l'époque était utilisé pour conserver les aliments. Mais s'il n'y a plus de sel, excusez-moi l'expression, mais la moisissure, la pourrissure, la pourriture va prendre toute la place en un temps record. Nous sommes appelés à cela, et en tout cas, nous devons vivre dans cet état d'esprit. Je vais conclure avec un texte, et peut-être que les frères, vous pouvez préparer la Sainte Cène pendant que je conclue avec ce texte, parce que, vous savez, je pense qu'ils ont appris dans la souffrance que la victoire devait passer par la souffrance. Je le répète, excusez-moi, mais hier au rassemblement de jeunesse, l'après-midi, il y avait un débat, question-réponse, et un jeune a posé cette question, mais est-ce qu'on peut suivre Christ sans souffrir? Sans souffrir. Est-ce qu'on peut remporter des victoires sans souffrir? Est-ce qu'on peut être guidé, dirigé par Christ sans souffrir? Il est évident que la réponse est non. Et ce que le peuple d'Israël a vécu, ce que David a vécu là, dans ce moment-là, c'est là encore pour nous montrer, pour placer cela dans cette réalité que nous devons apprendre à accepter la souffrance pour aller vers la victoire. Nous devons apprendre à accepter les choses qui sont difficiles pour que nous puissions être victorieux et être conduits par Jésus-Christ. Il y a un texte qui nous dit, parce qu'il y a un autre roi qui a remporté une victoire dans la vallée du sel. C'est dans 2 rois 14, ne cherchez pas, je le lis pour vous. Il y a un autre roi qui a remporté la victoire, c'est le roi Amatsia, fils de Joas, roi de Juda. Il est écrit que ce roi, dans la vallée du sel, va remporter une bataille, il va battre 10 000 Édomites. Une victoire extraordinaire pour ce roi. Et on pourrait se dire, mais c'est comme David finalement, il a remporté une victoire, c'est extraordinaire. Mais la fin du texte est complètement différente pour ce roi. Parce que ce roi, il a remporté la victoire, mais si je puis dire, il n'est pas passé par la souffrance. C'est un chrétien qui a voulu être un chrétien, mais sans Christ, sans porter sa croix, sans être vraiment un disciple. Il y a des victoires parce que Dieu bénit, et Amatsia, c'est un peu cela, c'est un chrétien qui dit « mais je veux seulement la bénédiction ». Et Amatsia, effectivement, a battu 10 000 Édomites. Il a remporté une victoire éclatante. Et cette victoire a eu un tel impact dans sa vie qu'il s'est dit, mais je vais aller à la guerre avec quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit qu'il envoya des messages à Joas en lui disant, mais viens et voyons-nous en face. Comme pour dire, mais j'ai eu cette victoire et je veux une autre victoire. Et le roi va lui répondre, mais jouis de cette victoire, ne viens pas avec moi. Reste dans ton coin, tu as gagné, c'est très bien, mais ne viens pas à ma rencontre. Ne viens pas m'affronter parce que tu vas perdre. Et la Bible nous dit juste ce verset, et après quoi, c'est dans 2 Rois 14, je vous invite à le noter si vous voulez le lire. La Bible nous dit que Amatsia ne l'écouta pas. Il a voulu quand même aller au combat. Simplement, lui, le combat, eh bien, ça s'est mal passé pour lui. Ça s'est mal passé pour lui. La même vallée, peut-être les mêmes combats, les mêmes choses. Nous sommes appelés, c'est ce que dit Pierre, nous sommes appelés à nous armer de cette pensée que si Christ a souffert, nous devons souffrir, à nous armer de cette pensée que si il y a des victoires à remporter, nous ne voulons pas oublier la souffrance, mais être enseignables par Dieu, enseignables par Christ. On va prendre ce saint repas, et je pense que c'est primordial de comprendre que Christ a tout accompli, qu'il a souffert pour nous ouvrir cette nouvelle voie, cette nouvelle alliance, mais c'est une alliance où la souffrance n'est pas exemptée, où la souffrance n'est pas occultée. Nous devons comprendre cette réalité, parce qu'il y a des victoires à remporter. Mon frère, ma sœur, tu dois, et Dieu t'appelle à remporter des victoires. Mais ne sois pas meurtri dans ton âme si les victoires tardent. Ne sois pas meurtri si Dieu te fait passer par un cheminement pour que tu puisses dire à la fin, béni soit-il, avec Dieu nous ferons des exploits. Il y a un cheminement, un chemin par lequel tu dois passer, que seul Dieu connaît, que seul Christ connaît. Mais ce chemin, c'est un chemin qui mènera à la bénédiction. Christ est mort, Christ a été crucifié pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre une vie réelle, une vie abondante, une vie remplie de joie. Et maintenant, nous allons prendre ce saint repas, que nous puissions considérer que si Christ a souffert, nous voulons nous armer de cette même pensée pour l'honorer, pour le glorifier, pour que nous puissions dire « oui, ma bannière est levée ». Cet après-midi, levons nos bannières, levons la vérité, aimons la vérité plus que tout, parce que Christ a payé ce prix et nous voulons l'honorer.